Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, 16h09 exactement, on est dans cette seconde journée pour l'AREF, la rencontre des entreprises de France, et on fait une délocalisation spéciale sens de l'immobilier avec nos amis de Procivis, et en l'occurrence, on va faire une interview directe justement pour évoquer la rentrée, évoquer les chiffres du logement, de l'immobilier globalement, avec le président du réseau Procivis qui est sur le plateau et qui a la particularité d'ailleurs, vous le savez, d'être aussi un élu local, ce qui est extrêmement intéressant puisque du coup, on a la vision à la fois de l'élu local dans la préoccupation d'aménager son territoire dans le bon sens du terme, mais aussi d'être un opérateur d'opérateurs immobiliers résidentiels essentiellement, bien évidemment. C'est Yannick Bord qui est avec nous. Bonjour Yannick.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Ça va bien sur le plan santé, sur le plan physique. Ça est beaucoup plus compliqué sur le plan activité, sur le plan professionnel.
J'espère que vous êtes bien reposé cet été parce que ça va chahuter pas mal à la rentrée. D'ailleurs, vous avez déjà commencé à être sévèrement chahuté. Vous êtes aussi le patron du réseau Procivis Ouest et vous pilotez l'ensemble de la coopérative. Pour rappeler que le réseau Procivis est un réseau coopératif. On peut le rappeler, c'est suffisamment rare pour le...
C'est un réseau coopératif qui comprend 46 sociétés aujourd'hui et qui est le seul acteur à être à la fois promoteur en accession sociale en libre, constructeur de maisons individuelles, quatrième réseau d'administrateurs de biens, à la gouvernance d'un ensemble d'organismes HLM. Donc sur toute la chaîne du logement, ce qui nous permet, dans le contexte très compliqué qu'on vit depuis maintenant plusieurs mois et qui continue de se dégrader, d'avoir une visibilité, en tout cas une vision de ce qui se passe assez complète et je pense assez juste et pas du tout dogmatique en tout cas.
Alors justement, je vous propose Yannick, pour ce sens de l'immobilier spécial REF avec le MEDEF, c'est d'évoquer le marché, il faut être très clair, hein, on va pas faire de déni de réalité. On a un marché atone, un marché qui est en crise, avec une conjonction de facteurs multiples qui s'ajoutent les uns aux autres et qui est en train de précipiter l'industrie immobilière au sens de la construction dans un marasme rarement connu, pour moi en tout cas inédit.
Non, moi ça fait 30 ans que je suis dans ce secteur-là, je pense qu'on a déjà passé des moments difficiles, mais il y avait deux ou trois facteurs qui expliquaient ces moments difficiles. Aujourd'hui on est vraiment sur un ensemble de facteurs extrêmement complexes, avec en plus une politique publique qui prend le risque que la machine se casse, c'est-à-dire quand les annonces qu'on a eues notamment après le CNR au mois de juin, de recentrage du PTZ, de fin du Pinel, sans parler de ce qu'il pourrait y avoir ou pas après. On met tout ce secteur-là devant une incertitude. Or, nous, on est sur des cycles de production qui sont des cycles longs, notamment dans la construction. Et aujourd'hui, on est à l'arrêt sur la commercialisation, c'est-à-dire ça ne... Il n'y a plus d'acheteurs, ils ont disparu depuis quasiment une petite année maintenant au fil des mois. À l'arrêt aussi sur la capacité à construire, puisque quand vous venez, quand vous vous êtes télescopé par des coûts de construction qui ont pris 30%, des frais financiers qui sont passés d'une référence autour de 1 point à pratiquement 4-5 points de main, tous nos bilans d'opération sont complètement déstructurés, un rythme de conversation qui s'est énormément ralenti. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Donc le gouvernement a fait le pari, pour moi très risqué et complètement irréaliste, que ce contexte-là allait faire baisser les prix. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Moi, je pense que c'est une erreur d'analyse. D'abord parce que dans la construction neuve, le coût de revient de la construction, on ne sait pas aujourd'hui le faire baisser. On nous a rajouté norme sur norme, verdissement sur verdissement, etc.
Comment pourriez-vous le faire baisser ? Vous ne pouvez pas réduire les prix des matières que vous achetez. Vous avez des normes qu'ils ont aujourd'hui votées, structurées.
Le coût de revient dans le neuf, on ne sait pas le faire baisser.
C'est baisser vos marges, mais ça, c'est un faux débat. Mais c'est ce qu'on vous dit.
Non, mais on peut toujours dire ça.
On vous dit, mais
et on le fait aujourd'hui, sinon...
Baissez vos frais de gestion, baissez vos frais de commercialisation, baissez vos marges. À un moment donné, vous finirez par travailler gratuitement.
Alors d'abord, il n'y a pas d'entreprise qui travaille gratuitement, mais aujourd'hui, on peut dire que peut-être qu'il y a des efforts à faire là-dessus, et peut-être que la période un peu temporaire nécessite qu'on fasse ces efforts-là, mais aujourd'hui, si on veut sortir les bras, on les fait.
Est-ce que ça menace l'équilibre économique de l'entreprise ?
Bien sûr que ça menace aujourd'hui.
Première réponse. Deuxième réponse, est-ce que ça peut provoquer des chutes, soyons clairs, d'entreprises, voire des dépôts de bilan d'entreprise ?
Alors, il faut regarder deux filières, et en tout cas, il n'y a pas de secteur d'activité qui résiste durablement avec tous ces acteurs quand ils baissent de 50% en 12 mois. Ça n'existe pas. Voilà, nous c'est ça le tarif aujourd'hui.
50.
On est à 50 quand vous regardez l'offre de crédit immobilier, 50, la construction de logements.
50,
50% depuis septembre sur 12 mois glissants. Et de mois en mois, le chiffre continue d'augmenter. Donc c'est ça qui est un peu inquiétant. Aujourd'hui, on ne voit pas trop l'élément qui fera que la tendance va commencer à se calmer et à s'inverser. Donc effectivement, il y a, dans tous les secteurs d'activité, les entreprises ont commencé à souffrir. Ça vaut pour les agences immobilières, notamment celles qui sont très positionnées sur la transaction immobilière, qui commencent pour certaines à disparaître. Alors, pour l'instant, c'est plutôt des petites agences. On a des promoteurs qui sont quand même mis en difficulté. Et puis moi, je n'oublie pas la filière de bâtiment, parce que c'est elle qui nous inquiète aussi, parce que on va ajuster nos structures, on va tenir le coup, et puis au moment donné où ça va se relancer, il faut que les entreprises du bâtiment soient là. Donc à quel niveau elles aussi vont se retrouver impactées par cette situation. Je rencontre jeudi prochain le président de la Fédération du bâtiment, ça va être autour de nos discussions. Et voilà, il y a toute une filière qui est en danger. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, le logement, c'est avec la santé, l'éducation, un sujet primordial pour chacun des Français. Et quatrième élément essentiel, surtout le dire ici avec les entreprises, c'est aujourd'hui l'une des sources essentielles pour garantir le développement économique. Si vous développez les entreprises et que vous n'avez pas de logement sur le territoire où elles se développent, vous ne développerez pas les entreprises.
C'est clair. Quand je vous écoute, Yannick, et qu'on reprend les chiffres, et on a regardé les chiffres, location, achat, ancien, neuf, etc., il n'y a rien qui donne à penser qu'on est à la sortie d'un tunnel. Au contraire, on a l'impression que quand on fait l'extrapolation des chiffres, vous avez rappelé d'ailleurs sur les 12 derniers mois, important ce que vous avez dit, puisque je prends simplement le dernier semestre en cours sur les augmentations des taux d'intérêt. On était parti sur une augmentation de 300 points de base, on atteint les 500 points de base d'augmentation. C'est-à-dire que tout ce qui avait été gagné pendant les 10 années précédentes en surface, en gain de pouvoir d'achat, en accession, a disparu en moins d'un an.
Là, on a perdu entre 25 et 30 % de pouvoir d'achat immobilier.
Exactement.
C'est-à-dire pour la même mensualité, vous empruntez 30 % de moins pratiquement aujourd'hui que ce que vous pouviez faire il y a 18 mois.
Et avec des critères d'éligibilité qui sont extrêmement draconiens. Parce que quand tout à l'heure vous dites qu'il y a un effondrement de la demande, si je vous dis que c'est plutôt un effondrement de la demande solvable, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ?
Oui, alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on a le défaut, d'abord, on a une data sur le logement et sur l'immobilier qui est assez faible, voire...
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Voilà, ça faisait partie...
Pourquoi, d'ailleurs, c'est aussi...
Parce que ça arrange tout le monde de ne pas, à mon avis, toujours donner les bons chiffres. Donc, en tout cas, ça arrange beaucoup de monde. Et donc, aujourd'hui, on est un peu planté par ça. Et puis, on se confond deux choses. On confond le besoin et la demande. Moi, je n'ai pas de besoin, mais peut-être que j'ai une demande. J'ai envie de changer de logement, j'ai envie d'avoir plus petit, plus grand, plus central, moins central. Et ça, aujourd'hui, on confond tout ça. Et cette chaîne, en fin de compte, à partir du moment où elle est grippée et où un certain nombre d'acteurs se disent « Tiens, finalement, c'est pas le moment, elle ne fonctionne pas. » Vous avez cité le marché de la location. Je voudrais en dire un mot parce que nous, on a considéré depuis plusieurs mois, on a alerté les ministres là-dessus, on peut finir, que c'était un marché qui était vitrifié. C'est-à-dire les gens ne sortent plus aujourd'hui du marché locatif parce qu'ils ne peuvent pas accéder à la propriété. Résultat des courses, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers jours sur le sujet, la dramatique situation des étudiants par rapport à leur logement.
12% ont renoncé à leur projet, vous rendez compte ?
Et donc aujourd'hui, c'est des étudiants qui renoncent à leur projet, c'est des salariés qui renoncent à une mobilité parce que là où ils peuvent aller travailler, ils ne trouvent pas nécessairement de logement.
C'est ça.
Donc on est quand même dans un moment... où il va falloir prendre en compte quand même que le secteur du logement, au même titre que l'emploi, au même titre que l'éducation, il est au même titre que la santé, il est vital pour une grande partie des habitants et une grande partie d'entre nous. Et il revient en plus de façon assez régulière à l'avancement de sa vie, quoi. C'est-à-dire que ça revient très régulièrement sur la table.
Est-ce que je peux vous demander de reprendre votre casquette d'élu ?
Oui,
et d'engagé politique. Vous êtes dans un parti politique, on peut le citer ?
Bien sûr, à Horizon.
Vous êtes à Horizon, dirigé par Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Bon, ce serait intéressant de lui poser la question de savoir pourquoi de son temps. Bon, ouais, on lui posera certainement la question. Vous êtes le maire d'une ville moyenne, il y a 8 000 habitants. Donc 8 000 habitants, ça veut dire que vous n'avez pas une armée de fonctionnaires derrière vous. Vous êtes forcément beaucoup sur le terrain, y compris le week-end.
Je le confirme.
Je précise. Parce que vous arrêtez pas. Vous êtes l'élu local dans toute sa grandeur. Et vous êtes à portée, j'allais dire, comme dirait Gérard Larcher, à portée de claque de Gilles de vos administrés. Bon, mais vous avez la particularité à Saint-Berthevin d'avoir une belle commune qui a un taux d'attractivité très fort, et qui a un taux de chômage parmi les plus faibles.
Secteur avec un chômage autour de 5%. Ouais.
C'est vrai. Mmh. Bon, pour reconnaître qu'on vit bien dans votre région.
Je pense.
C'est la Mayenne. Il n'y a pas plus beau que la Mayenne. Voilà.
Merci.
Je postule actuellement au poste du patron du syndicat d'initiative de Saint-Berthevin. Non, c'est plus anecdotiquement parlant. Comment vous expliquer ? Vous êtes un homme politique, Yannick. Vous pourriez être appelé demain matin comme secrétaire d'État au logement ou à l'aménagement du territoire. Et vous le ferez certainement un jour. Pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi, moi qui ne suis pas politique, encore, on a une telle surdité inaudible, invisible de la part du gouvernement. Et pas que de celui-là, des précédents gouvernements. Alors, est-ce qu'on a des hommes politiques qui ne comprennent pas qu'on est face à un choc social systémique qui va précipiter les gens dans les rues, parce qu'à force de dormir dans sa voiture et de vivre dans un habitat indigne, on finira par se révolter. Comment vous m'expliquez ça ? Vous les connaissez, les politiques ?
Je pense que c'est une matière très compliquée, le logement. Et puis c'est une matière aussi où les acteurs ont leur part de responsabilité dans la perception que le politique a du secteur
acteur
du logement.
Acteur promoteur, agent immobilier.
C'est-à-dire quand vous êtes maire, c'est un secteur d'activité qui sait bien mettre la pression sur les élus locaux, qui sait... qui est assez puissant, donc qui l'utilise et peut-être parfois un peu à l'excès. Aujourd'hui, les élus, nous, le réseau ProCivis, en fin de compte, on est une organisation hyper décentralisée. Donc nous, on est proche des territoires. Et en fin de compte, aujourd'hui, entre une politique nationale qui est construite par un gouvernement qui, on l'a bien vu avec le CNR, en fin de compte, écoute assez peu les acteurs. Enfin, le gouvernement passé, il y a un nouveau ministre. Moi, je ne l'ai pas encore rencontré. J'espère que ça sera fait dans les prochains jours.
Mais vous n'attendiez rien, Yannick Bord, du CNR. Vous nous l'avez dit.
Oui, j'en entendais rien.
Vous aviez un peu d'espoir. Mais
on avait un espoir. Pourquoi on avait un espoir ? Parce que tous les acteurs sont d'accord sur le diagnostic de départ. Et tous les acteurs ont bien dit, je me rappelle des propos de Véronique Bédague et de Christophe Robert, qui avaient dit, attention, monsieur le ministre, vous avez lancé le CNR. Vous avez tout le monde autour de la table. Il y aura une grande entente sur les conclusions. Elle a été produite, les conclusions ont été globalement produites. Après, c'est derrière l'absence de reprise de ces conclusions qui est une catastrophe aujourd'hui. Et donc, sur lequel il va falloir travailler. Et au contraire, même, on a eu des annonces qu'elle
est à contresens. La restitution faite par Elisabeth Borne était surréaliste,
convenez-en. Elle était à contresens des attentes des opérateurs. Alors, on peut tous comprendre qu'on a une situation des finances publiques qu'il faut maîtriser, etc. Nous, on est plutôt un acteur responsable. En tout cas, on se le revendique. Et moi, je plaide pour qu'on ait ce message-là, qui est de dire on n'est pas en train de réclamer de l'argent public supplémentaire. Moi, je donne des consignes à mes équipes. Toutes les imaginations que vous pouvez avoir, vous essayez de me la faire à ISO budget. En tout cas, on fait une économie d'un côté, on la reprend de l'autre. Mais on n'est pas en train de demander des milliards supplémentaires parce qu'on sait très bien que ça, c'est voué à l'échec. Et je regrette qu'un certain nombre de fédérations soient encore dans ce raisonnement-là. Voilà. Mais après, là où c'est déconnecté, c'est entre cette politique nationale qu'il faut bien impulser et puis une connexion des territoires où entre les deux, il y a une perte en ligne colossale. Aujourd'hui, les maires, ils ont la trouille de construire parce qu'il y a deux riverains dans la rue qui vont aller frapper au bureau du maire pour lui dire « va y avoir un immeuble à côté de chez moi, ils verront dans mon jardin ce que je suis en train de faire ». On a à la fois cette contradiction des élus qui sont en train de dire je veux faire du développement économique de mon territoire, mais aujourd'hui il n'y aura pas de développement économique. J'insiste beaucoup ici au mouvement des entreprises de France pour dire il n'y aura pas de développement économique sans construction de logements.
Absolument. D'ailleurs, je vais vous dire, vous le savez, il y a des lieux d'implantation dans de grandes entreprises internationales qui ont dû être complètement revus. Parce qu'il n'y a pas une offre suffisante de logement, donc il y a un problème d'attractivité.
Et ce qu'il faut aussi avoir
s'ils changent de ville, ils peuvent aussi changer de pays en Europe. Hein.
Exactement. Et puis ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est pour ça qu'on est pratiquement sur une notion d'aménagement du territoire, de nouvelles politiques de décentralisation. Le ministre a parlé de décentralisation. Moi, je trouve que c'est plutôt un sujet qui mérite d'être saisi. C'est que nous, on n'est pas capable de construire... Alors, l'usine, elle ne se fait pas du jour au lendemain, mais nous, on n'est pas capable de construire non plus. Aujourd'hui, il faut 4 à 5 ans entre le moment où vous regardez un foncier et le moment où il y a des habitants sur le terrain. Donc, faut anticiper quand même. Et on a cette déconnexion des élus locaux, je pense, qui ont envie, mais qui ont peur de la réaction.
Yannick, est-ce qu'on, quand on stigmatise, vous le savez, vous êtes un élu local et je suis un fervent défenseur des élus locaux. On aime les élus locaux. Pour moi, c'est... Et d'ailleurs, sans faire de cynisme, je suis un peu étonné de façon dont le président de la République a redécouvert les vertus de l'élu local. Enfin, bref, passons. La question est... est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes, on les stigmatise un peu facilement parce qu'ils sont réduits aussi avec des baisses de dotation, vous le savez, baisses de dotation qui sont substantielles. On leur a ôté des marges de manœuvre sur des recettes fiscales, comme vous le savez, avec la taxe d'habitation, dont on dit qu'elle a été compensée à l'euro près. C'est faux, puisqu'on a démontré que dans certaines communes, il y avait des hétérogénéités très fortes, et vous le savez aussi. Quand même, que là, la crise du logement ne serait-ce que sur l'ancien, sur les transactions, a fait baisser les droits de mutation à titre onéreux, qui finance une partie des finances publiques au niveau des élus locaux et des intercos et des communautés d'agglos, à un moment donné, on peut comprendre qu'on a même des maires en cours de mandat qui jettent l'éponge.
Oui, mais ça peut pas être. On peut pas d'un
les
côté
les accuser uniquement de pas signer le permis de construire est un peu facile.
On peut pas d'un côté plaider le développement économique de son territoire et pas réfléchir à la politique du logement.
Non,
on peut
juste
pas d'un côté ne pas soutenir la construction neuve et venir s'étonner de la baisse des transactions immobilières, parce que ceux qui font la transaction immobilière, c'est bien parce qu'il y a des nouveaux logements qui se construisent sur le territoire.
Absolument.
Donc les droits de mutation, moi je m'autorise, parce que j'ai double casquette, de dire peut-être certaines choses qui fâchent un peu. Mais à un moment donné...
13% de baisse. Hein.
Oui, mais c'est colossal en Chine.
Vous savez quelle est la perte sur Paris ?
500 millions.
Ah oui.
Mais
vous avez vu
en
le
même temps,
vous avez vu l'attitude d'Anne Hidalgo, elle est extraordinaire.
Mais en même temps, les élus locaux, on les a pas entendus dans le CNR. Ils sont pas venus contribuer, apporter une contribution. Alors, ils ont pas été très sollicités, faut le reconnaître, notamment par l'État.
Ben oui.
Mais les grandes fédérations d'élus n'ont pas une mobilisation extraordinaire sur la question du logement. Donc voilà, aujourd'hui, cette question du logement, notamment en lien avec les territoires, elle n'échappera pas non plus à c'est un peu ce que je porte aussi dans le parti où je suis, à une nouvelle question, une nouvelle refonte de la fiscalité locale, de la situation financière locale. J'ai d'autant plus d'aisance à en parler au sein d'Horizon que Édouard Philippe était Premier ministre sur la suppression de la taxe d'habitation. Donc on voit bien qu'on a à repenser un peu cette relation entre territoire, logement, qui est quand même un gros pouvoir de fiscalité locale. Moi, sur la commune, j'ai 9 millions de recettes. Je vais avoir 7,5 millions de recettes issues de la taxe foncière et des compensations de taxe d'habitation et de droits de mutation. Donc voilà.
Vous avez tout dit là.
Ben voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, un budget de collectivité locale. Donc tout est dépendant de cette. Et on a le débat en ce moment sur la flambée de la taxe foncière, qui en gros est un débat un peu tronqué, hein, parce qu'on le découvre aujourd'hui, quelque chose qui a été voté dans toutes les communes il y a 12 mois.
Absolument. Donc, absolument. Et d'ailleurs, je m'étonne d'ailleurs un point. Comment l'AMF ou d'autres organisations d'élus locaux ne se sont pas plus émus de cela, ou publier, ne serait-ce que pour justifier cette fait. Il nous reste 5 minutes, je voudrais qu'on évoque deux sujets. Il y a le sujet effectivement du marché locatif privé.
Aujourd'hui, complètement bloqué. Devant nous une difficulté, c'est les échéances de la loi climat résilience sur les étiquettes énergétiques,
voilà.
Et donc la difficulté qu'on va avoir de procéder.
Est-ce
à
que vous savez combien de logements seront retirés du marché en 2025 et 2028?
Alors, ce détail de la page, ce que je sais, c'est qu'il y a 11 millions de logements aujourd'hui E,
voilà.
F, G,
ouais.
Qu'il faut
on
améliorer.
On parle de 3 millions de logements dans les deux prochaines années.
Il faut améliorer une étiquette d'ici 2035. Nous, on a fait des propositions.
2 millions.
L'État a mis les moyens quand même sur le parc ancien, notamment avec Julien Normandie, Emmanuel Vargon,
avec
un prime Rénav et avec l'ANA.
D'ailleurs, même au niveau de la copropriété.
Voilà. Aujourd'hui, il y a un point dur, c'est le financement des restes à charge des classes modestes. Nous, on a fait une proposition, elle est sur le bureau au plus haut niveau. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour dire si on veut travailler sur un outil qui est un outil de place bancaire,
par exemple,
sur le financement du reste à charge des populations modestes, pour éviter que chacun aille réinventer de son côté et qu'on soit sur une démarche plutôt concurrentielle alors que ça ne le mérite pas. Voilà, donc.
Et quelle est il y a des solutions, parce qu'il y avait aussi, rappelez-vous, le projet du crédit avance mutation.
Oui, alors il y a plein de projets.
Crédit d'avance mutation qui était une très bonne idée.
Qui est une bonne idée et qui va falloir peut-être réintégrer dans cette.
C'est un crédit, en fait, c'est un paiement in fine à la mutation du bien. Donc c'est $1
et ça
il n'y a pas une banque qui a pris le dossier.
Il y en a une qui a essayé de le prendre, qui a eu beaucoup de mal, mais c'est normal quand on regarde l'organisation bancaire, leurs propres contraintes, les comités d'engagement, les ratios issus des règles de l'autorité de contrôle, etc.
Il suffirait que le politique s'en mêle pour
mais aujourd'hui, il faut que ça soit un outil de place. La rénovation énergétique, c'est un enjeu colossal pour le pays, ça va au-delà des parts de marché de tel ou tel acteur bancaire. Donc nous, on plaide pour un outil partagé. On a remis des copies là-dessus dans le cas du CNR. On a étoffé cette copie ces derniers temps avec un acteur qui s'est associé à nous sur la réflexion. Elle a été présentée à tous les conseillers au plus haut niveau de l'État. Elle attend un go politique.
On a le financement, effectivement, des populations vulnérables.
Modeste.
Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a même des propriétaires modestes.
Les propriétaires retraités, par exemple, aujourd'hui.
Voilà, absolument. Il y a eu des gros efforts sur le reste à charge, notamment... certains opérateurs qui arrivent à financer à titre privé. Je connais deux entreprises qui le font. Mais il y a aussi le sujet de l'élargissement à la copropriété. Toute copropriété confondue, on arrive au maximum entre 30 et 40% de financement. Et
oui.
Le reste à charge, c'est-à-dire 60% entre 50 et 60% en moyenne au niveau de la copropriété, c'est les copropriétaires qui la prennent en charge.
Et c'est pour ça
que parmi ces copropriétaires, on a des copropriétaires très fragiles qui n'ont pas les moyens de le faire.
Et c'est pour ça que nous, on plaide pour dire que sur cet exemple-là, si on prend vos 60%, dedans, c'est lors de l'Assemblée Générale, quand on sort du vote des travaux, on dit qui est capable de faire son affaire de son côté.
Par
et il
n'y
a pas de débat, on n'en parle plus, et puis tout le reste. Il y a l'outil partagé, l'outil mutualisé, l'outil politique commun qui fait que ça fonctionne et on saura, nous syndic, nous réseau Solia qui intervient dans beaucoup de dossiers, tout un tas d'acteurs aujourd'hui autour d'habitat existant qui sont en capacité d'intervenir sur la rénovation énergétique, nous on saura comment flécher aujourd'hui les besoins entre celui qui peut faire et celui qui a besoin de l'accompagnement.
Et vous savez que c'est le premier frein?
C'est le premier frein, mais surtout
en assemblée de copro.
C'est le premier frein.
C'est le financement.
Aujourd'hui, si on ne le traite pas, on ne traitera pas l'amélioration énergétique de ces 11 millions de logements d'ici 2035, et au-delà de la crise de la construction neuve, on a une deuxième crise de sortie d'impact, de risque de sortie d'un certain nombre de logements du parc et du marché.
Le PTZ va disparaître certainement, ainsi que,
très mauvaise idée.
Ainsi que le dispositif Pinel. Fin 2024, il n'y a plus de Pinel.
Alors sur le Pinel, nous on a une position assez...
Alors le dogme du Pinel, ou ce qui a présidé à l'idée du Pinel, Pinel qu'on a appelé Meignerie, qu'on a appelé Périssol, qu'on a appelé Cellier, qu'on a appelé... Voilà. Chaque emprunt, pour Bercy, c'est une mise sous perfusion de l'industrie immobilière qui produit le logement. D'aucuns, notamment les promoteurs, disent qu'au contraire, ça a fluidifié, ça a permis de fluidifier à des taux intéressants les prix du mètre carré en location, notamment, parce qu'il y a une contrepartie là-dessus. Votre avis sur le dispositif Pinel, est-ce qu'il faudra peut-être songer à un dispositif de défiscalisation, comme il en existe, d'ailleurs même Julien Normandie a créé le sien pour l'ancien par exemple, ou est-ce que vous dites finalement Pinel, Cellier, Périssol, finalement tout ça c'est pas une bonne idée, on est capable de faire ça?
Alors de faire sans rien, je suis pas sûr. Pinel, c'est moi je veux bien entendre l'effet inflationniste.
Reformule. Est-ce qu'il faut un dispositif fiscal?
Oui,
pour
je
vous
pense
aider.
Qu'il faut un statut du bailleur privé aujourd'hui, refondre un peu tout ce qu'on avait, c'est-à-dire le Pinel et le revoir complètement.
Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire le statut du bailleur privé?
Un statut du bailleur, on va revenir à quelque chose qui existait en 95, qui s'appelait le Périssol, c'est-à-dire que vous étiez investisseur, vous achetiez un logement, vous le mettiez en location et vous aviez la possibilité de l'amortir sur vos revenus fonciers, ce qui en termes d'effet fiscal est bien moindre.
Exemple, j'ai dépensé 100, et j'amortis combien?
Ben sur le Périssol, j'ai plus en tête, mais on pourrait dire qu'on amortit quasiment tout, mais sur la durée de 40 ans, on amortit 2,5% tous les ans.
Et donc c'est un gain fiscal?
C'est un gain fiscal sur le revenu foncier, ce qui n'est pas du tout de la même ampleur budgétaire que le Pinel.
C'est pas sur la masse taxable?
Non, c'est
sur,
voilà.
C'est donc, sur l'impôt lui-même.
Voilà. Et puis, vous êtes dans une copro qui, dans 10 ans, refait 40 000 euros de travaux, vous rechargez votre possibilité d'amortissement de 40 000 euros sur les 10 ans qui suivent, etc. Ça, c'est le
donc la rénovation énergétique, s'il y avait un statut, pourrait être financé grâce à l'amortissement. Mais ça coûte rien à l'État, ça?
Ça coûte toujours un peu, mais ça coûte beaucoup moins que ce que ça coûte aujourd'hui. Et en fin de compte, c'est de mettre sur chacun d'entre nous, quand on a envie de faire un investissement locatif, à peu près les mêmes règles du jeu que vous avez sur une foncière quand elle investit en direct, quand un institutionnel qui amortit son patrimoine, qui gagne en IS, etc. Je reviens une seconde sur le prêt à taux zéro, parce que je sais que le temps nous est compté, je voudrais insister. C'est vraiment une très très mauvaise idée aujourd'hui.
Très mauvaise idée.
De recentrer le prêt à taux zéro sur le vert.
En fait, alors, je précise, parce que j'ai peut-être donné une mauvaise information, c'est pas qu'il va disparaître,
non.
C'est que les conditions d'octroi ou d'accessibilité sont telles qu'à un moment donné, on se dit, mais.
Il va être concentré sur uniquement le collectif, sur la maison individuelle, et uniquement sur les zones dites tendues, c'est-à-dire B1 et A, ce qui est une vraie erreur stratégique, parce qu'aujourd'hui vous plantez l'accession à la propriété sur les territoires dits détendus que je déteste, parce que ces territoires, moi je suis sur un territoire dit détendu parce qu'il est zoné B2 et C, sauf qu'on est à 5% de taux de chômage, donc on a besoin d'accession sociale. Et aujourd'hui avec l'augmentation des taux, c'est vrai que le PTZ il coûtait assez peu à l'État il y a quelques années, parce que les taux étaient bas, là il coûte beaucoup, et entre... le supprimer et puis peut-être trouver des formules, on est en train de réfléchir, nous, à des formules alternatives puisque ça va jouer avec le projet de finances qui va être annoncé dans quelques jours. Il y a vraisemblablement quelque chose à faire parce que la stratégie que l'on voit qui est de baisser la production neuve, parce que c'est ça la stratégie aujourd'hui, si vous voulez décrypter un peu la stratégie du gouvernement. Alors,
la production de logements neufs.
Bah, quand vous dites, j'arrête le Pinel...
Mais quand on voit les enjeux démographiques et les enjeux de logement, c'est presque un suicide social. Hein.
Oui, parce que derrière, leur raisonnement, c'est de dire c'est ce qui va faire baisser les prix, ce qui est complètement faux. C'est l'inverse qui va se produire. Moins il y aura de produits, plus les produits qu'il y aura à vendre seront chers. Puisque
mais
le marché...
peut penser une chose pareille, à part un incompétent
On va montrer, je vais pas répondre à ça comme ça, mais je pense qu'il y a des dogmes aujourd'hui
mais
sur
vous
la question
de bon
du
sens,
logement.
À un moment donné,
il faut qu'on arrive à faire bouger sur cette partie-là. Donc nous, notre exercice des prochaines semaines, c'est avec le nouveau ministre. On va l'accueillir début octobre à Nantes sur le congrès HLM. J'espère qu'on l'aura vu un petit peu avant. Et on va essayer d'être constructif. Et puis, je redis, nous, constructifs...
Vous attendez quelque chose du nouveau... Objectivement, pas Yannick Borne. Est-ce que vous attendez
Moi, je suis
quelque chose de
Patrick Garrigue, qui a encore un brin d'utopie. Donc je n'imagine pas que quelqu'un qui est à la tête d'une ville comme Dunkerque, avec ce qu'il a fait, et parfois les propos qu'il a même tenus dans des missions qu'il a eues par le passé,
ouais.
viennent sans avoir réussi à obtenir certains arbitrages.
Alors, je ne veux pas faire le cynique, mais vous savez,
oui, je sais ce que vous
Olivier Klein était patron de l'ANRU quand même. Hein. Bon.
Ouais, bon, voilà.
J'espère,
je pense qu'on arrivera à le convaincre d'un certain nombre de positions. Après, il faut obtenir les arbitrages. Et nous, on est prêts aussi à travailler avec les services de Bercy, services de Matignon, services de l'Élysée, sur les écritures de copies extrêmement précises, qui sont des copies sans argent public massif supplémentaire. On a 38 milliards aujourd'hui dans le budget de l'État entre les aides sociales et les aides au logement. Sanctuarisons ce montant de 38 milliards. Et à l'intérieur, allons travailler sur ceux qui sont jugés inflationnistes et qui déséquilibrent le marché, le Pinel peut en faire partie, et remplaçons-les par des solutions qui sont peut-être mieux adaptées au contexte logement dont on a besoin. Parce que la demande, c'est ça le drame aujourd'hui, c'est parce qu'on serait sur un secteur où il n'y a pas de demande.
C'est clair.
On pourrait se dire, les professionnels, ils réclament pour sauver leur peau. Non, on est sur un secteur où il y a un vrai gros besoin et une vraie demande.
Dernière question, quand est-ce que vous êtes nommé secrétaire d'État au logement ?
Jamais.
Voilà, on aurait bien besoin de professionnels aguerris pour travailler sur le logement des Français, parce que c'est un vrai sujet. Ce qui est beaucoup moins drôle, c'est de voir tous les Français qui vont se retrouver sans logement parce qu'il n'y a plus d'accès à la location. Vous savez que le nombre d'annonces à la location, toutes annonces confondues, sur les 3 dernières années, ont fondu de 48%. Oui, écoutez-moi bien, il y a plus d'une annonce sur deux qui a disparu dans les 3 dernières années, avec un flux migratoire et une demande de logement, vous parlez des étudiants, des retraités et des jeunes actifs qui renoncent carrément à venir dans leur projet. Pour les jeunes actifs, c'est 17% d'entre eux qui ne signeront pas leur CDI parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger dans les grandes métropoles. Et pour les étudiants, c'est 12% des étudiants qui renoncent. C'est un vrai sujet, c'est un sujet de société. Merci Yannick Borne.
Merci.
Voilà, pour le numéro un peu extra du sens de l'immobilier, la collection qu'on a initiée d'ailleurs avec vous à Procivis. On va se revoir avec Procivis sur le stand de Procivis, puisqu'on sera présent à Nantes pour le congrès de l'Union sociale par l'habitat, où nous rencontrerons les élus sur le stand. Vous pouvez y venir et vous serez les bienvenus si vous voulez nous poser des questions, bien évidemment. Vous avez l'adresse du réseau www.procivis sur l'internet où vous pouvez consulter toutes les offres. Vous allez voir, vous maillez, d'ailleurs vous êtes présents sur quasiment l'ensemble du territoire, y compris en Corse, non ?
Y compris en Corse et Outre-mer.
Voilà. En Corse, alors si vous voulez qu'on fasse une émission spéciale à Porto Vecchio, moi je suis partant. Hein. Voilà, on y va demain. Un petit clin d'œil notamment à Angelini, Jean-Christophe Angelini, qui est le maire de Porto Vecchio, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques semaines. Merci Yannick Borne. On est toujours ici. Il est 16h36 à la REP. Jusqu'à ce soir, on se retrouve tout de suite après.
Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis, à retrouver sur les sites de Radio Immo et Radio Territoria.